autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, amis auditeurs, en cette journée de deuil national. Nous sommes ensemble sur Radio Charlie International et nous nous interrogeons en esprit libre que nous sommes et que nous essayons de rester en continuant de remettre en question tout ce qui dérange. Difficile de faire preuve d'autant d'humour que nos amis, dessinateurs, journalistes et libres penseurs, mais nous allons à notre manière creuser ce sillon commun à tous les contre-pouvoirs, à tous les lanceurs d'alerte, en remettant en question aujourd'hui la science, carrément. En revenant sur les différents scandales sanitaires, de l'amiante, du plomb, du nucléaire, des pesticides, des déchets, avec notre invitée, la sociologue de la santé, Annie Thébaumoni, qui dénonce les collisions mortifères entre industriels et chercheurs dans son dernier ouvrage « La science asservie » aux éditions de La Découverte, autour de la question « À qui profite la science ?» Bienvenue. Bonjour Annie Thébaumoni.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous en cette journée particulièrement difficile. Un de vos proches, le journaliste Fabrice Nicolino, est blessé dans cet attentat dramatique.
Oui, tout à fait. Fabrice Nicolino, je veux évoquer ici tout le travail qu'il fait. Oui, c'est un lanceur d'alerte, c'est un contre-pouvoir. Il est membre de l'association Henri Pézerat depuis ses origines. Je dirais même que il a été un de ceux qui a fortement poussé à la création de cette association et pour moi c'est vrai que outre tout ce que représente cet attentat, c'est le fait qu'on porte atteinte à des journalistes qui ont une véritable information, qui porte une véritable information comme lui.
Et que vous portez vous aussi cette véritable information, Annie Thébaumoni. Nous allons ensemble nous intéresser à un sujet, alors on va peut-être pas dire tabou, mais en tout cas pour le moins délicat, le processus de confiscation de la science au profit d'intérêts privés de grands groupes industriels, souvent avec la complicité de l'État, que ce soit ici comme ailleurs, processus que vous dénoncez sans relâche en tant que chercheuse et citoyenne. Vous êtes sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire à l'INSERM, chercheuse associée au groupement d'intérêts scientifique sur les cancers d'origine professionnelle à l'Université Paris 13 et partie prenante des réseaux citoyens de lutte pour la santé contre les risques industriels. Vous vous êtes appuyé à la fois donc sur votre propre expérience universitaire et sur celle donc du toxicologue Henri Pézerat que vous avez cité, connu pour son engagement scientifique et citoyen contre l'amiante, pour écrire votre dernier ouvrage, La science asservie, aux éditions de La Découverte. Est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable travail universitaire de dénonciation ?
C'est un travail universitaire, un travail sociologique, d'analyse sociologique, mais je dirais que il a la particularité de se situer dans la recherche en santé publique, qui de mon point de vue est une recherche pour l'action, c'est-à-dire pour la protection de la santé des citoyens, des travailleurs, de tous ceux et celles qui peuvent être soumis à des risques, et notamment les risques industriels.
Donc il s'agit d'un constat, mais d'action à suivre derrière, bien sûr. Autour de la question « À qui profite la science ?», on commence tout de suite par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix de Charles Pélabon.
La science pure, elle cherche la découverte sans trop d'intérêt, a priori.
Comment les scientifiques, dans leur majorité, ont été amenés à s'inscrire dans un processus de corruption de la science au service de groupes industriels et de leurs actionnaires avec la complicité de l'État.
Comment avoir une collaboration publique-privée dans la recherche sans pour autant être esclave de contraintes qui seraient imposées par les industriels ?
On se trouve, je dirais, dans une situation qui est biaisée dès le départ. On a créé des mécanismes institutionnels qui, en fait, vont privilégier de façon systématique la production scientifique financée par l'industrie.
OGM, organisme génétiquement modifié.
Ces substances inertes, ce sont des sulfates qui ont un effet destructeur du système endocrinien et qui entraînent de graves problèmes de vue.
Alors que l'Inde vient de conclure un accord avec l'Australie sur le nucléaire civil, les déchets radioactifs sont déversés dans les rivières, polluant tout sur leur passage.
Rapport sur le gaz de schiste.
Alors qu'on est sur un débat technique où même les scientifiques manquent de connaissances, absolument, vous avez des furieux qui ont la conviction qu'ils ont raison, qu'ils ont la vérité, et que c'est comme ça et pas autrement.
L'amiante, cette roche minérale aux fortes propriétés isolantes, est hautement cancérigène.
Il y a un causal entre les pathologies et l'environnement au travail.
En première ligne, les professionnels du bâtiment.
Existe-t-il ou devrait-il exister des articles du droit du travail qui prendraient en charge cette pénibilité toxicologique ?
La France est entravée par une multitude de normes et de règles, mais là-dessus je crois que tout le monde est d'accord. La France, elle a évidemment d'abord besoin d'innovation et puis ensuite de précautions.
Cette conscience de la responsabilité politique dans la production scientifique est insuffisamment développée.
Est-ce que la science peut ne pas être asservie ? Et pourquoi il faudrait qu'elle ne soit pas asservie ?
Annie Bomoni, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Bien sûr, parce que, notamment à la dernière question, oui, il faut une science non asservie, avec une recherche qui parte de des problèmes de qui se posent dans la réalité concrète vécue par les travailleurs, par les citoyens, sur cette question des risques industriels, qui est le terrain sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et que cette recherche soit une recherche publique sur fonds publics, et que les industriels aient une contribution financière qui ne leur donne aucun pouvoir sur les chercheurs.
Parce que précisément, hein, votre travail, cette science asservie sur laquelle, pour reprendre le titre de votre ouvrage, donc, que vous dénoncez en tant que chercheuse et citoyenne depuis de nombreuses années, le point de départ au fond, c'est l'amiante, hein, sur lequel vous avez travaillé avec Henri Pézenas, célèbre toxicologue, donc qui fut votre compagnon.
Alors avec Henri Pézenas, qui fut mon compagnon, nous avons travaillé vraiment sur les, à la fois du côté citoyen, du côté scientifique. Henri a été le premier en France, en 75-76, à mettre en évidence le problème de l'amiante. Il se mettait, en fait, je dirais, il mettait la France à jour par rapport à d'autres situations où, dans d'autres pays, les pays, enfin, même les États-Unis, où il y avait un professeur qui, dès les années 60, avait alerté sur ce problème, le professeur Selikoff, dans les pays du nord de l'Europe, en Angleterre, on avait déjà un certain nombre de scientifiques qui mettait en évidence qu'il fallait faire quelque chose, et en lien avec le mouvement syndical, souvent, ou avec des mouvements citoyens. Et Henri Pézenas, dans l'université Jussieu, a pris conscience de la contamination de ce campus universitaire, et il est allé au-delà, c'est-à-dire que, voyant ce qui se passait sur le plan de son université, il est allé vers les ouvriers et les ouvrières, parce que c'est là qu'était évidemment la contamination la pire pour ces personnes qui travaillaient l'amiante à main nue.
Comment se fait-il qu'on a pu défendre l'indéfendable, hein, aussi longtemps, en France en tout cas, concernant l'amiante, mais pas seulement, on va le voir.
Alors, si je prends la situation française, entre pratiquement 1905 et 1964, il n'y a pas d'études du tout sur les effets sanitaires de l'amiante. En 64, il y a le congrès à New York, un congrès très important organisé justement par le professeur Selikoff, qui met en évidence sur la place publique les risques de l'amiante. Et là, les industriels, la chambre syndicale de l'amiante, organise un congrès international scientifique, donc c'est eux qui l'organisent, pour essayer de justement contenir l'information. Et en fait, là, c'est la première fois que des données apparaissent sur la place publique en France, mais étroitement contrôlées par la chambre syndicale de l'amiante. Et ensuite, il se passe plus rien jusqu'en 75-76. Donc, on est dans un climat en France où c'est comme s'il y avait une controverse sur les effets sanitaires de l'amiante. C'est comme si tout ce qui était connu ailleurs, eh bien, il fallait le reprouver de nouveau en France.
Et le rôle des chercheurs dans ces cas-là, ce serait quoi ? Ce serait de dire, mais attendez, on ne peut pas travailler pour la chambre syndicale de l'amiante, parce que ce qui se passe pour l'amiante se passe pour les cancers aujourd'hui, se passe pour tout un tas de produits chimiques, pour le nucléaire, enfin, c'est presque un cas d'école, monstrueux, mais un cas d'école.
C'est un cas d'école, et en même temps, ça renvoie à l'idéologie dominante en santé publique, et je parle bien d'idéologie. C'est-à-dire que on est dans une situation qui dure encore, dont on a eu encore récemment, tout récemment, des illustrations par rapport au cancer, c'est de dire le problème, c'est le comportement. C'est le comportement individuel, c'est-à-dire le cancer, c'est le tabac, c'est l'alcool et quelques autres comportements du type alimentaire.
Or, vous dénoncez, on va y revenir, hein, mais dans un papier qui est paru dans Le Monde mercredi 7 janvier, daté mercredi 7 janvier, justement le fait qu'une nouvelle étude scientifique, la très prestigieuse revue Science, dit qu'en gros le cancer c'est le fruit du hasard. Or vous dites...
Non, le cancer n'est pas le fruit du hasard, et la publication, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais la publication de ces scientifiques est un raccourci absolument saisissant de la complexité du processus de cancer, mais ne tient compte ni des inégalités. Et un ouvrier aujourd'hui a 10 fois plus de risques de mourir de cancer et précocement avant 65 ans qu'un cadre supérieur.
À cause des risques au travail, donc liés
à cause des cancérogènes qu'il rencontre dans son travail. Et l'amiante en fait partie, malheureusement, hélas, en fait encore partie, c'est-à-dire que avec l'amiante qui est rencontrée par les travailleurs du bâtiment, par exemple, on prépare les cancers dans 30 ans. Avec les fibres céramiques, on prépare les cancers de dans 30 ans. Avec les molécules chimiques, la même chose. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que les chercheurs sont dans cette situation? C'est parce que, du point de vue de la santé publique, un postulat a été posé au début des années 80 qu'il n'y avait que 3% de cancers attribuables au travail ou à l'environnement. Et depuis cette époque, je dirais, on s'en remet pas, puisque c'est répété de façon incantatoire, et que du coup, il n'y a pas de recherche qui a été vraiment engagée sur ce terrain-là, ou très peu.
Nous sommes donc dans l'Amiante Blues, on écoute l'Égoriste sur RFI.
Il a vu partir le grand porte-avions gris. Dans le cœur de Tijan, il y a eu comme un pincement, un drôle de sentiment, une tristesse sans regret, un bonheur de jeunesse par l'amiante supprimé. C'est vrai qu'il en a vu passer des tonnes d'amiante quand il était OS au chantier de la Ninon. On en mettait partout sans masse ni protection. On n'imaginait pas que ça tuait nos poumons. Amiant blues, Amiant blues. Ils ont eu bien du pot, ceux qui n'ont rien contracté. Depuis plus de 10 ans, Tijan, il est touché. Les éponges en berne, il ne peut plus respirer. Le moindre mouvement lui donne des suées. Ses enfants ont grandi, n'en a pas profité, n'a jamais pu jouer au foot avec son aîné. Les petits encore pire ne l'ont vu qu'essouffler. La vie n'est pas pareille quand on se sent humilié. Amiant blues, Amiant blues. Faut croire que ça rapporte ce putain de minerai. Bon nombre de pays continuent d'exploiter. Y aura encore des morts et des gens diminués. Mais maintenant partout, il faut des amiantés. L'amiante est une pierre, un roc, un minéral. Si on ne le travaille pas, il est inoffensif. Les bateaux aux poissons feraient de beaux abris. Le Clémenceau aurait pu être leur nurserie. Amiant blues, Amiant blues, Amiant blues, Amiant blues.
Amiant blues sur RFI, l'Égoriste, autour de la question à qui profite la science, avec notre invitée, la sociologue de la santé, Annie Thébaumoni, qui dénonce la science asservie dans son dernier ouvrage, et les collisions mortifères en santé publique entre industriels et chercheurs. Je vous propose d'écouter sur ce sujet l'éclairage d'un physicien, José Allois, que nous avions reçu ici même avec le mathématicien Bertrand Maury.
Si on regarde l'histoire des sciences, la science est née parce qu'elle avait un intérêt économique et militaire.
Si on reprend la physique, c'est évident. D'ailleurs, dès Galilée, d'ailleurs au service, même Léonard de Vinci, etc. Tous ces gens de la Renaissance sont au service du prince en tant que conseiller militaire ou économique ou pour prédire le futur. Donc on a un conflit d'intérêts constitutif dans la science, c'est-à-dire on doit tout le temps prendre conscience qu'effectivement on est au service d'intérêts particuliers. Et que c'est une question qui se pose en permanence, c'est-à-dire toute recherche peut être récupérée du point de vue militaire. Je ne vois pas d'exception à ça. Même quand on réfléchit, je regarde mon collègue mathématicien en face, il y a des mathématiciens qui réfléchissaient à des questions qui pouvaient paraître d'une abstraction très absolue et qui se sont révélées fondamentales, par exemple, pour la cryptographie et donc pour des applications militaires. Donc c'est une question constitutive de la science. Il faut tout le temps se poser la question, est-on au service de l'intérêt général ou de l'intérêt particulier? Est-on au service de la démocratie ou de la dictature? C'est une question constitutive.
Question constitutive de la science, Annette Beaumoni, vous êtes d'accord avec cet éclairage?
Ah, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a une finalité à toute recherche. Et qu'il y a ceux qui assument les finalités. Et il y a ceux qui font semblant d'eux. Et je vais prendre une anecdote. Quand l'expertise collective INSERM a été décidée sur l'amiante en 1995-96, nous étions deux chercheurs en France à travailler sur l'amiante d'un point de vue de santé. Henri Pesera sur les aspects toxicologiques, les mécanismes de cancérogénèse de l'amiante, et moi sur les problèmes d'invisibilité des maladies professionnelles, notamment l'amiante. Et à ma grande surprise, le comité d'expertise, nous n'étions pas dans le comité d'expertise. Les deux seuls chercheurs qui travaillaient sur l'amiante, nous n'étions pas dans ce comité d'expertise. Je téléphone à mon collègue de l'INSERM pour lui demander pourquoi ni Henri Pesera ni moi-même nous étions pas dans ce comité. Et il me répond, mais Annie, tu comprends, toi et Henri, vous êtes beaucoup trop engagés. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre, et les autres, parce que les autres, ils y étaient, ils ne sont pas engagés, eux, aux côtés des industriels. Il ne m'a pas répondu. Et effectivement, siégeaient dans ce comité tous ceux qui avaient participé au comité permanent amiante, qui avait été construit à l'initiative des industriels pour empêcher toute réglementation sur l'amiante à partir des années 60-70, non, à partir du début des années 80, juste après le mouvement de l'amiante à Jussieu, pour empêcher que les pouvoirs publics aillent trop vite sur des réglementations drastiques.
Mais comment faire alors justement pour que les chercheurs puissent continuer à travailler comme vous, sans qu'on dise qu'ils soient engagés contre, ou sans qu'ils soient engagés pour et uniquement aux côtés des industriels ou au service des industriels qui souvent quand même, comme on dit, les études. Vous avez des pistes, Annette Beaumoni?
Oui, bien sûr. Je pense qu'on est un certain nombre de chercheurs à développer déjà depuis longtemps. Alors ça a été notre expérience avec Henri, un travail avec des collectifs citoyens, parce que la demande en santé publique, je parle de la recherche en santé publique, la demande, c'est une demande qui part de réalités concrètes.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut parler aux gens qui en sont les victimes, c'est ça que vous dites, enfin, qui travaillent avec des substances, notamment chimiques, cancérigènes et qui provoquent des cancers professionnels.
Tout à fait, je prends l'exemple d'une entreprise de la chimie, dans laquelle une nouvelle molécule est introduite au début des années 80. Cette molécule, très rapidement, les ouvriers, mais les syndicalistes qui siègent au comité d'hygiène et de sécurité et conditions de travail, s'aperçoivent qu'il n'y a pas de connaissances sur la toxicité, mais ils sont inquiets. Et le médecin du travail aussi. Il faut un vrai travail pour obliger la direction à faire les premiers tests de mutagénicité. Les résultats reviennent, c'est un mutagène, et à ce moment-là commencent les premiers cas de cancer du rein. C'est eux qui lanceront l'alerte, et je dirais contre en fait tout un travail épidémiologique qui a semé le doute et qui sème encore le doute aujourd'hui. Alors, sur cette situation,
comment lutter contre ce doute autour de la question à qui profite la science? On va continuer de s'interroger sans tabou et d'imaginer donc tous les contre-pouvoirs scientifiques et citoyens ensemble, suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info sur RFI. En cette journée de deuil national, nous sommes ensemble, tous ensemble, sur Radio Charlie International. À tout de suite.
Tous les cinémas du monde.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Sur Radio Charlie International aujourd'hui. Bienvenue à tous les esprits libres et curieux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Nous continuons de nous interroger sur la science asservie, titre du livre de notre invitée, la sociologue Annie Thébault-Mauny, sociologue de la santé, qui dénonce les collisions mortifères entre industriels et chercheurs, ici comme ailleurs, autour de la question à qui profite la science.
En Afrique aussi, on a un droit de vie. En Afrique aussi, on n'a pas besoin de vivre avec des déchets toxiques en notre compagnie. Ça, c'est regrettable que les gens ne comprennent pas les choses de la sorte. Nous pensons que nous allons nous battre avec tout ce que nous avons comme force pour que cette situation soit réparée et que cela n'arrive plus jamais.
Plus jamais ça, retour sur la cargaison de déchets toxiques déversés par le navire pétrolier Probo Koala dans le port d'Abidjan, 581 tonnes de déchets toxiques ayant causé la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers de personnes. Une catastrophe sanitaire, environnementale qui illustre quoi, Annie Thébault-Mauny, finalement le déplacement de tous ces risques sanitaires liés notamment aux produits chimiques vers les pays du Sud.
Absolument, on est dans ce déplacement, la délocalisation. Pour être plus réaliste, les pays comme la France ou les autres pays européens se débarrassent de leurs déchets vers des continents comme l'Afrique. On peut citer effectivement le propos Koala, mais on pourrait citer les batteries de plomb aux portes de Dakar, on pourrait citer les déchets des mines radioactives au Niger, au Gabon ou même à Madagascar. Et je voudrais revenir sur le propos Koala parce que c'est le symbole de ce que nous appelons, nous les sociologues, la filière déchets. C'est-à-dire que rien n'est prévu véritablement, ni dans la production par les industriels, ni même dans les réglementations, pour empêcher cette délocalisation des déchets vers des pays où on sait parfaitement que les déchets ne seront pas traités de telle sorte que ça respecte.
Et là, il y a quoi? Il y a une sorte d'omerta, enfin, et d'omerta et de non-dit et de, enfin, on ne s'en soucie pas, on ne porte pas notre attention ni notre recherche là-dessus.
Je dirais que c'est pire que de l'omerta. C'est une stratégie délibérée de délocalisation. Moi, je vais reprendre l'histoire de Clémenceau à laquelle j'ai été associé par l'association Ban Asbestos, le réseau international Ban Asbestos en Inde et en France. On a réussi à s'opposer à ce transfert, mais aujourd'hui, il faut savoir que 1200 bateaux partent de l'Europe vers les plages de l'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, pour être démantelés, avec des gamins aux pieds nus sur les plages, dans les conditions dans lesquelles, justement, on a évité que le Clémenceau ne soit démantelé. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, dans cette histoire, comme l'avait dit d'ailleurs le commissaire du gouvernement du Conseil d'État, l'État ou les armateurs se débarrassent de leurs déchets à bas prix, et nous, les associations, à un moment donné, on a essayé d'être le contre-pouvoir qui défend l'intérêt général. Et défendre l'intérêt général, c'est défendre les conditions de travail de ces travailleurs du Sud contre les déchets du Nord.
Autour de la question à qui profite la science, je propose de revenir, si vous le voulez bien, sur cette catastrophe, vous l'avez dit, emblématique, du Probo Koala en Côte d'Ivoire, avec cet extrait donc d'un reportage de l'AFP sur place, c'était juste quelques années après, en août 2009.
Décharge d'Akouedo à Abidjan. Ces hommes et ces femmes fouillent à la recherche de bouts de métaux qu'ils pourront revendre. C'est à une centaine de mètres de là qu'en août 2006, une partie des déchets du Probo Koala ont été déversés. À l'époque, nous avions rencontré ceux qui habitent à proximité de la décharge.
Nous sommes enrhumés comme ça. Ça
c'est
sent
pas
mal.
Ce qu'ils ont fait.
Ça donne la diarrhée.
Ça nous rend malades.
Aujourd'hui encore, les riverains disent subir les conséquences de la catastrophe et dénoncent une dépollution imparfaite.
Une fois il pleut, deux ou trois fois, on ne peut plus respirer.
et on ressent les mêmes odeurs qui étaient là avant.
Le Probo Koala contenait une essence de mauvaise qualité, chargée de mercaptan, un liquide à l'odeur d'œuf pourri, de soude caustique et d'autres résidus chimiques. La cargaison appartient à Trafigura, une discrète société installée en Suisse et aux Pays-Bas, réalisant 73 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Trafigura fait circuler tous les jours des centaines de bateaux pour approvisionner en essence plus ou moins raffinée les marchés les moins regardants, en Afrique ou en Iran par exemple. Quand le Probo Koala arrive à Abidjan le 19 août 2006, ses cales sont pleines de déchets pétroliers. Une société locale accepte de les traiter pour 35 euros la tonne. À partir du 19 août, les résidus sont déversés un peu partout dans Abidjan. L'odeur devient vite insupportable, nausées et malaises se multiplient, comme ici dans le quartier de Djibi, où des déchets seraient toujours entreposés.
Des déchets sont toujours entreposés, Anita Bomoni, en l'occurrence là à Abidjan.
C'est la caractéristique des firmes multinationales que de se débarrasser de ce qui les encombre sans se préoccuper des conséquences sanitaires pour les lieux et les personnes dans lesquels ils déversent leurs déchets.
Et selon vous, c'est le rôle des chercheurs comme vous que d'alerter là-dessus, de chercher des solutions, mais en tout cas de ne pas laisser faire ou de dire qu'il y a une responsabilité à prendre?
Alors, de mon point de vue, c'est notre responsabilité de chercheurs en santé publique d'alerter sur les conditions dans lesquelles se font les productions industrielles aujourd'hui et se fait la gestion ou la non-gestion des déchets dans les autres parties du monde, avec un réseau de chercheurs, de juristes. Nous sommes actuellement en train de travailler sur ce que nous appelons le crime industriel. Et de mon point de vue, ce qui s'est passé à Abidjan relève complètement d'un crime industriel qui devrait être jugé devant une cour pénale, que ce soit en France ou une cour pénale internationale qu'on appelle un peu de nos voeux. Mais en tout cas, ça relève d'une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et ça, toutes les juridictions pénales dans le monde le condamnent.
Et ça touche particulièrement, alors dans les pays du Sud, les plus pauvres d'entre les pauvres, les travailleurs les plus pauvres, au Sud comme au Nord. Parce que quand vous travaillez sur la question des cancers professionnels, ça touche plus les ouvriers que les cadres. Enfin, on se retrouve quand même là avec, vous parlez de crime, un crime qui touche les plus pauvres, toujours.
C'est un crime qui touche les plus pauvres systématiquement. Si je prends l'enquête que nous faisons actuellement sur les cancers professionnels en Seine-Saint-Denis,
donc en banlieue parisienne,
en banlieue parisienne, qui porte donc sur les patients atteints de cancer de plusieurs hôpitaux de ce département, plus de 75% des patients sont des ouvriers. Pour la plupart, enfin pour une grande partie, issus de l'immigration, qui ont fait tous les sales boulots. Du bâtiment, du travail des métaux, du nettoyage, de la gestion des déchets, qui se retrouvent avec des cancers et qui ont des histoires d'exposition de 30 ans avec de véritables cocktails de cancérogènes. Donc on est là, effectivement, dans une inégalité abyssale, faut bien le dire, et qui a les résultats qu'on connaît, mais dans une complète invisibilité. Et je dirais que, de mon point de vue de chercheur en santé publique, c'est cette invisibilité qu'il faut arriver à briser pour montrer où sont les risques, pour montrer aussi où sont les responsabilités.
Oui, parce que précisément, personne ne prend ses responsabilités là-dedans, on a l'impression finalement. Ni les industriels, ni l'État, ni finalement ce que vous reprochez aussi aux chercheurs, ni les chercheurs qui sont asservis eux-mêmes à ces grands groupes industriels notamment.
Alors, effectivement, il y a les responsabilités des industriels. Moi, je dirais que c'est la responsabilité la plus lourde parce qu'ils savent, ils connaissent les risques et pour des raisons de profit, ils font le calcul que ça leur coûtera beaucoup moins cher d'indemniser quelques personnes que de continuer des productions mortifères. Mais et puis il y a une responsabilité de l'État d'être complice de ça. Mais il y a surtout peut-être aussi, de mon point de vue, une responsabilité de des chercheurs qui acceptent de rentrer dans une dans un processus de doute, de fabrique de l'incertitude. C'est des
expliquez-nous
des
ça, de doute, de fabrique de l'incertitude, c'est-à-dire de alors que vous vous dites finalement, si on va à la base, si on parle avec les travailleurs, on se rend bien compte qu'il y a problème, question, vrai problème de santé. Cette question du doute et de l'incertitude, c'est quoi pour nous laisser dans une sorte de doute? Effectivement, c'est pas sûr que ce soit si dangereux que ça, c'est ça?
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que alors c'est un processus historique que j'explique dans mon bouquin, c'est-à-dire que très rapidement les industriels, quand ils se sont rendus compte que les risques étaient effectifs, ils sont les premiers à les connaître. Ils ont mis en place deux choses. D'une part, une action très très offensive auprès des pouvoirs publics, alors aux États-Unis, en Angleterre, en France, pour empêcher les réglementations. Et ils ont pris le pouvoir sur la production scientifique en faisant de l'épidémiologie, c'est-à-dire de la statistique appliquée à la santé, l'outil de vérification, soi-disant, de la toxicité d'un produit. Or, la statistique est probabiliste par essence, c'est-à-dire que une fois qu'on a dit qu'il y avait plus de cancer chez des personnes exposées à l'amiante ou au rayonnement ionisant que dans la population générale, il reste une marge d'incertitude. Et ils ont joué sur cette marge d'incertitude pour dire, eh ben, on n'est pas si sûr que ça. Et en plus, le fait que les chercheurs, l'État, acceptent que la recherche soit essentiellement financée par les industriels, a fait que des recherches qui auraient pu constituer une sorte de contre-pouvoir et de contre-vérité par rapport à ça, ces recherches n'ont pas été menées.
Et vous dites que ça se retrouve et que ça se vérifie dans tous les domaines. Enfin, dans votre livre, vous parlez à la fois du nucléaire, mais aussi des polluants chimiques de plus en plus nombreux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, aujourd'hui, la science va très vite. Les éléments chimiques sont de plus en plus nombreux dans nos univers, et notamment dans nos univers de travail. Et donc, c'est quoi? C'est de pire en pire? On peut le voir comme ça?
De mon point de vue, oui, parce que, si vous voulez, les connaissances sur lesquelles on pourrait appuyer une politique de santé publique, elles nous manquent aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple du nucléaire, parce que dans le nucléaire, 90% de la maintenance en France, dans les centrales françaises, mais je sais que c'est partout pareil, mais prenons la situation française, 90% de la maintenance est faite par des travailleurs sous-traitants.
Les travailleurs du nucléaire qui sont sous-traitants.
Qui sont sous-traitants. C'est-à-dire qu'EDF sous-traite à des entreprises qui elles-mêmes sous-traitent à d'autres. On a jusqu'à 10 niveaux de sous-traitance dans la maintenance du nucléaire. Quand il y a une étude qui est faite, il y a eu très très peu d'études sur la relation entre les rayonnements ionisants et les cancers chez les travailleurs. Il y en a une dans les années 70 aux États-Unis et une internationale à la fin des années 90. Cette enquête des années 90, elle est faite uniquement sur les travailleurs statutaires, c'est-à-dire les agents EDF, CEA...
Qui, eux, auraient les protections peut-être... un niveau de protection plus élevé.
Ils ont un niveau de protection plus élevé, et puis ils sont surtout beaucoup moins exposés. Ils ne subissent que 20% de l'exposition, alors que les sous-traitants subissent 80% de l'exposition.
Et sur eux, on ne fait pas
et
tant d'études
ils
que
ne
ça
sont pas, ils, les sous-traitants ne sont pas inclus. Et leurs conditions de travail, évidemment, ne sont pas prises en compte dans cette enquête. Et pourtant, cette enquête montre que... Pour les statutaires, avec 19 millisieverts, alors 19 millisieverts, faut savoir que ça représente presque la dose annuelle dite admissible, qui n'est pas du tout un seuil de toxicité. Eh bien, 19 millisieverts sur l'ensemble de la carrière, 30 ans, pour toutes ces personnes qui ont eu donc une très très faible dose, on a 2 à 3 fois plus de cancers que ce qui était attendu, du point de vue des épidémiologistes. Malgré ça, on entend aujourd'hui, et surtout on trouve dans les dossiers, dans les expertises, qu'il n'y a pas d'effet à moins de 100 millisieverts. C'est un postulat, mais comme aucune étude n'est faite de façon précise sur les conditions de travail, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être exposé peu de temps à des doses fortes, versus l'inverse, etc., eh bien, les industriels triomphent avec des postulats qui sont portés par des médecins. Je vais les citer, comme le professeur Maurice Tubiana, qui est décédé maintenant, mais aussi comme celui qui lui a succédé, le professeur Orango, et quelques autres qui disent, à moins de 100 millisieverts, il ne se passe rien.
Plus rien ne m'étonne, Tiken Jaffa Coli sur RFI.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
Rien ne m'étonne, c'est Tikenja Fakoli sur RFI, autour de la question à qui profite la science, avec notre invitée, la sociologue du travail, Annie Thébaumoni. Heureusement, il y a des chercheurs qui s'inquiètent tout de même, comme vous, de cet asservissement de la science, comme le biologiste Pierre-Henri Gouillon, chercheur à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité du CNRS. On l'écoute au micro de Charlie Dupiot.
On constate qu'il y a une entrée de plus en plus importante d'une vision financière du monde dans notre société en général et dans la science en particulier. Depuis quelque temps, on a vu apparaître une chose tout à fait nouvelle, c'est que les chercheurs pètent dans leur CV, et ça leur est demandé, combien d'argent ils ont réussi à tirer. La quantité d'argent que le chercheur a réussi à tirer du système est devenue un élément important pour évaluer sa qualité. Alors, les chercheurs se sont convaincus, on les a convaincus, que ce que demandaient les citoyens en échange du fait qu'on les paye, les chercheurs, et puis qu'on leur offre de quoi travailler, eh bien, c'est qu'ils soient rentables. Je me souviens très bien, moi, je travaillais sur les risques liés aux OGM. Je me suis dit, je vais proposer que mon équipe qui travaille sur les risques liés aux OGM, c'est une vraie demande de la société, on devrait pouvoir avoir de l'argent. Eh bien, pas du tout, parce que comment on reconnaissait une équipe qui travaillait pour la demande de la société? Eh bien, c'est qu'elle était cofinancée par une entreprise. L'État a imposé aux laboratoires une vision de leur utilité qui était totalement liée au fait qu'ils travaillent pour des entreprises. Donc, en fait, il n'y a plus que les recherches qui intéressent les industriels qui sont vraiment bien financées. En fait, la question qui se pose, c'est de savoir si la science est morte au profit de la technoscience ou s'il reste encore un peu de science. Bon, il y a Isabelle Stenger, c'est une philosophe belge qui est très critique aussi vis-à-vis de ces questions et qui a développé une idée que je trouve très intéressante. Elle part d'une fable, c'est la fable du scorpion et de la grenouille. Alors c'est un scorpion qui veut traverser une rivière et il sait pas nager. Donc il demande à une grenouille de le prendre sur son dos. La grenouille lui dit « Non mais tu plaisantes, je te connais, tu vas me piquer ». Et le scorpion lui dit « Mais non, je suis pas fou, si jamais je te pique, je coule et donc je mourrai noyé ». Donc bon, alors la grenouille se laisse convaincre, elle prend le scorpion sur son dos, elle commence à traverser la rivière et au milieu de la rivière, craque, tout d'un coup, elle sent une immense douleur dans son dos. Et le scorpion l'a piqué et elle lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et il lui dit « J'y peux rien, c'est dans ma nature ». Isabelle Stengers dit, si vous laissez la science sous le contrôle des entreprises, elles ne pourront pas éviter de la tuer. Donc, de même que le scorpion a besoin de la grenouille, l'industrie aurait besoin de la recherche, mais si jamais on demande à la recherche de travailler pour l'industrie, l'industrie ne va pas pouvoir se permettre de laisser les chercheurs continuer à faire des recherches complètement ésotériques et qui conduisent à trouver des trucs vraiment nouveaux. L'industrie va demander aux chercheurs de faire des trucs rentables.
Comment faire, Anita Bomoni? Parce que j'ai envie de dire que c'est le serpent qui se mord la queue ou le scorpion en industrie qui mord à mort la grenouille de la science.
Alors, là encore, dans mon domaine, effectivement, d'abord, il faut libérer absolument la santé publique de cet asservissement à l'égard de l'industrie. Et pour ça, il y a une démarche qui est d'abord de repartir de là où se posent les problèmes. Je vais prendre plusieurs exemples. Récemment, j'ai été sollicitée par des syndicalistes qui étaient eux-mêmes inquiets parce que des salariés d'une entreprise de déchets, justement, mais en France, présentaient des plombémies, donc un taux de plomb dans le sang particulièrement élevé. Donc les syndicalistes ont fait ce qui est de leur responsabilité syndicale du point de vue de la santé au travail. Quand il n'y a pas de syndicat dans une entreprise, c'est le syndicaliste territorial. Ils sont allés, ils ont, avec un médecin qui est militant, qui travaille avec eux, fait tout un travail d'investigation pour mettre en évidence que dans cette entreprise de traitement des déchets électroménagers, on avait 24 métaux dangereux, cancérogènes, et que cette situation était absolument inadmissible. Donc cette situation-là, a entraîné un médecin militant, mais il y avait aussi un généraliste qui travaillait, et puis ils sont venus chercher quelqu'un qui est chercheur, pour que, ensemble, on construise d'abord une connaissance de cette situation-là, et à partir de là, qu'on commence à dégager des pistes d'action.
Ça demande à la fois une vigilance, et puis un véritable engagement, finalement, de toutes les parties. Hein.
Alors, c'est sur cet aspect de l'engagement de toutes les parties et de la vigilance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la science entre les mains des chercheurs.
C'est ce que vous dites, c'est...
Il faut que tous les citoyens se disent qu'ils ont une connaissance et que la production scientifique doit être faite de la synergie entre des savoirs d'expérience de terrain, d'expérience syndicale, d'expérience de la personne qui a des symptômes, et puis de ceux qui, ayant acquis d'autres types de connaissances, d'autres types de savoirs, peuvent éclairer ces expériences.
Au fond, il faut aller chercher les chercheurs, si j'ose dire. C'est-à-dire chercher les chercheurs avec du quelque chose de notre propre expérience, au travail notamment, ou ailleurs, quand il y a des questions à se poser.
Absolument. Et là, je voudrais parler d'un reportage qui a été fait d'ailleurs par RFI, qui est ce qui se passe sur le site minier de Saint-Félix-de-Palières dans les Cévennes. En fait, c'est un travail remarquable qui a été fait par vos collègues journalistes.
C'est un web documentaire
Oui, c'est un web documentaire et qui montre cette situation pour laquelle des toxicologues ont travaillé, des médecins, et c'est parti, je dirais, de la vigilance citoyenne, de citoyens qui ne se sont pas résignés à ce que disaient et le préfet, et le maire, et le député, etc., en disant « mais non, c'est pas grave, tout va bien ». Moi, j'ai une autre expérience encore en région parisienne, une usine d'amiante qui a pollué tout Aulnay-sous-Bois pendant 50 ans. Ça fait 20 ans que nous nous battons, des collectifs citoyens et scientifiques. On s'est battu pour la déconstruction d'une usine et qu'elle soit faite enfin, en respectant la réglementation. On n'a pas demandé la Lune, hein, on a demandé ça. Mais avec aussi ce qu'on pouvait amener, nous, comme scientifiques, sur la connaissance de la dangerosité de ces poussières.
Oui, c'est ça, c'est une synergie vraiment, quoi, des savoirs, enfin du savoir citoyen ou de l'ouvrier ou de celui qui l'a, et du savoir scientifique du chercheur. C'est une sorte de synergie.
C'est une synergie. C'est cette synergie, de façon à pas quitter le terreau sur lequel naissent les problèmes. C'est-à-dire que...
Oui, pas faire de la recherche, enfin partir de là où il faut faire de la recherche.
Voilà. Mm-hmm. Et en fait, l'association Henri Pezera, dont j'ai parlé à propos de Fabrice Nicolino, Fabrice travaille avec un certain nombre des collectifs
Fabrice
sur
Nicolino
la chimie.
Fabrice Nicolino, qu'on salue, il nous écoute depuis son lit d'hôpital.
On espère qu'il peut nous écouter et que...
Victime de l'attentat.
Et en tout cas, je veux saluer ici le travail qu'il fait avec des collectif. Il a écrit un bouquin qui est remarquable, qui s'appelle L'empoisonnement universel sur l'histoire de la chimie, et dans une édition Les liens qui libèrent, pour ceux qui voudraient se le procurer, et avec Fabrice, avec donc des journalistes, des scientifiques, des juristes, parce qu'il faut des avocats pour plaider, il faut des juges pour assumer aussi des décisions judiciaires qui rappellent la loi.
Ensemble, on peut faire avancer et bouger les choses.
Nous pouvons faire bouger les choses.
Merci infiniment, Anité Beaumoni, d'être venue nous alerter, nous informer en direct sur notre antenne. Votre travail nous est précieux. Je rappelle le titre de votre livre, en forme de réquisitoire assez implacable, La science asservie, aux éditions de la Découverte, sous-titré Santé publique, les collisions mortifères entre industriels et chercheurs, mais cela peut cesser, on l'a compris ensemble. Merci.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro, amis auditeurs libres et curieux. Quant à nous, avec Charles Pellabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, nous vous donnons rendez-vous lundi du côté du Sahara pour éclairer notre présent si complexe et si troublé à la lumière de l'histoire du plus grand désert du monde qui fut aussi le berceau de notre humanité et le lieu de tant de traversées réelles et imaginaires autour de la question pourquoi refaire l'histoire du Sahara. Rendez-vous lundi, d'ici la bonne fin de semaine à tous. À l'écoute de RFI, nous sommes ensemble. Nous partageons nos interrogations, nos résistances, nos grandes joies et nos grandes douleurs sur Radio Charlie International. Les informations dans une poignée de secondes.
Appelez-nous, exprimez-vous.